Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ils sont devenus des acteurs incontournables et particulièrement inquiétants pour le pouvoir du mouvement des Gilets jaunes. Ils ont emboîté le pas de la protestation dans la foulée de l'acte 1, comme on dit, le 17 novembre. D'après certains, ce serait à Perpignan, le 19 novembre, que les premiers lycéens auraient commencé à se mobiliser ou à se remobiliser, si on considère que leur mouvement est la reprise de celui déjà amorcé au début de l'année 2018, à partir du mois de février. Puis la contestation lycéenne a pris de l'ampleur début décembre, avec un pic de mobilisation le 7 décembre. Selon une étude du Monde, au plus fort des blocages, jusqu'à 470 lycées ont été perturbés sur 4000 au total, dont 2500 publics. Ce qui a frappé les observateurs, ce n'est pas seulement l'ampleur de la contestation, la rapidité de la contagion d'un lycée à l'autre, mais sa géographie inattendue, nouvelle. Les établissements, généralement aux premières loges, sont restés en retrait au profit d'une mobilisation en région et pas forcément des quartiers les plus populaires. Une cartographie ressemblant, à s'y méprendre, à celle des Gilets jaunes eux-mêmes. Et puis, le 6 décembre, au soir, des images hallucinantes tournées dans la journée à Mantes-la-Jolie ont commencé à circuler. Le lendemain matin, ils étaient partout, ces lycéens à genoux, les mains sur la nuque, tenus en respect ou menacés, selon les points de vue, par des CRS. Un tournant dans le mouvement des lycéens et des gilets jaunes qui a même fait dire au président Erdogan, qui s'y connaît en répression, que la police, chez nous, y allait un peu fort. Alors le mardi 11 décembre, mardi dernier, le jour où nous sommes allés à leur rencontre, ils étaient plutôt remontés, les lycéens. L'Union nationale lycéenne avait appelé à un mardi noir, 450 établissements étaient perturbés et 60 bloqués. Dans le cortège hétéroclite de la manif parisienne et en région, nous leur avons donc demandé ce qu'ils voulaient, pourquoi ils n'étaient pas contents, ce qu'ils avaient à dire, les forces vives de la Startup Nation, nos jeunes, notre avenir, nos enfants. Et c'est Émilie Chaudet qui est allée leur parler. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, reportage.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Maud, je vais avoir 18 ans et je viens du lycée Balzac dans le 17e à Paris. Moi, c'est la suppression des filières qui m'a amenée à sortir. Quand on pose des questions aux professeurs, ils sont même pas capables de nous répondre qu'est-ce qu'on va mettre dans Parcoursup, si les appréciations vont avoir une importance. Et on est vraiment dans un état d'incertitude où du coup on est sous une pression intenable, honnêtement, où on a l'impression que chaque contrôle détermine notre futur, chaque note va déterminer l'école où on va aller. Moi, j'ai un bon niveau, hein. Je me débrouille bien. C'est pas pour moi que ça va être le plus difficile, hein, cette réforme. Moi, je suis dans une situation où j'ai des parents qui m'aident à travailler, je suis dans un bon environnement, donc moi, j'ai pu avoir des bonnes notes pendant toute ma scolarité. Je suis hyper avantagée, je suis quelqu'un qui va bénéficier de ce système. Mais moi, je veux pas d'un système où ça va être que des gens comme moi, des fils et filles de bourgeois qui vont bénéficier d'un système. Enfin, comme si c'était sous des petites cloches de verre. Tous les mêmes, dans les mêmes environnements, tous ensemble, où on pense les mêmes choses, où on vient des mêmes endroits, bah, c'est une forme d'élitisme. Hein, où c'est les fils de riches qui ont les moyens de réussir, qui vont réussir, et c'est tout. Et on va laisser les autres dans la mouise, quoi. Les élèves de l'Institut catholique nous filment, ils trouvent ça drôle, sûrement. Quand on est passé devant la fac d'Assas, les étudiants, ils étaient juste, ils ont ouvert les fenêtres, ils nous ont regardé passer avec un petit sourire en coin, en se disant « Ah voilà, ils font leur petite marche ». Alors on a crié de nous rejoindre, ils avaient l'air de se marrer. Quand on est passé devant le lycée Henri IV, Les gens nous regardaient avec des grands sourires, genre « Ah, c'est ça, faites votre truc !» Non, mais c'est pour ça aussi que je marche, c'est que moi, je suis dans une classe où il y en a qui sont pour cette réforme, il y en a qui savent même pas ce que c'est, qui s'intéressent pas du tout à la politique, et il y a un moment où c'est plus possible, on peut pas ignorer ce qui se passe autour de nous.
C'est la première fois que vous manifestez ?
C'est la première fois que je manifeste. J'avais un peu peur, honnêtement, avec tout ce qu'on voit à la télévision, etc. Mais on se rend compte que, bah voilà, quand il n'y a pas de casseurs et quand là, il n'y a pas les CRS, bah, ça se passe bien, en fait.
Je suis étudiant à Tolbiac en première année de licence d'histoire. J'ai 20 ans. On est là pour présenter le mouvement étudiant contre la politique de Macron depuis qu'il est là. Plus d'un an de politique qui nous montre que c'est de l'abus, c'est le président des riches avec le retrait de l'ISF et l'augmentation de la CSG, le CICE, tout ça. C'est un ras-le-bol total et je vois vraiment la souffrance des gens. Mes parents, principalement, mon père est cheminot. Et je le vois avec la réforme des cheminots qui est passée il n'y a pas longtemps, le fait de la privatisation, tout ça, ça me touche personnellement. Puis moi, je viens pas de Paris, je viens d'un village, je viens de Picardie. J'ai 1h30 de transport aller, du coup 3h aller-retour pour venir étudier à Paris. L'année dernière, j'ai travaillé un an dans un Leclerc Drive pour mes études, pour éviter de faire payer mes parents, parce qu'ils n'ont pas les moyens de me payer des études. Et aussi parce que je voulais aider ma famille dans leurs soucis quotidiens. Ma mère doit être à 1007, 1008 et mon père un peu plus à 2000. On pouvait vivre comme on le souhaitait, jusqu'au moment où mon père a dû faire grève suite au mouvement des cheminots, avec la réforme de la SNCF, où là c'était plus compliqué, vu que mon père a fait 24 jours de grève. Du coup, on faisait des restrictions, on faisait pas de sorties des fois quand on aimait aller au restaurant ou des choses comme ça, ou on faisait pas de cadeaux, enfin voilà.
Et vous, avec cet emploi, vous gagnez combien ?
Moi, j'étais à 1158 euros, c'est-à-dire le SMIC. Ça m'a suffi pour aider mes parents et en même temps pouvoir venir à Paris et être à l'aise, c'est-à-dire pouvoir manger le midi, pouvoir me payer les transports, etc., etc. Du coup, j'ai travaillé un an et ensuite, je me suis inscrit sur Parcoursup et je me suis mis comme candidat redoublant vu que l'année d'avant, j'avais commencé des études et j'ai pas pu continuer à cause du financement de mes parents qui pouvaient pas suivre. Et du coup, je suis revenu et voilà, je me suis inscrit via Parcoursup. Et je voulais faire l'histoire parce que j'aimais l'histoire et je me suis inscrit à Tolbiac.
Dans un lycée,
alors on attend juste, on a regroupé les élèves et là on attend nos profs, comme ça on reste groupés.
D'accord.
Comme ça on voit bien qu'on est du même établissement.
Vous êtes dans quel lycée ?
Le Corbusier à Aubervilliers, dans le 93. On a vu que les blocus qu'on avait fait, ils n'étaient pas très efficaces parce qu'on a eu des violences devant le lycée. On essayait de se rassembler devant le lycée et il y a des gens d'autres lycées qui ont commis des violences. Il y a eu une voiture qui a été retournée. Et on a eu 2 ou 3 charges de CRS. À ce moment-là, la police ne fait pas la différence entre ceux qui sont pacifiques et ceux qui choisissent la violence. Et du coup, y a une vidéo qui est sur Internet où on voit un cheval de la police qui a chassé un élève du Corbusier. Il y avait des gens qui étaient traumatisés par les chevaux. On avait les CRS qui bloquaient les deux rues. Du coup, on était nassés par les policiers, notamment les chevaux. Et du coup, là, ça remet vraiment en question les blocus et c'était inadmissible de continuer sur cette voie parce que c'est pas ce qu'on demande.
On est la jeunesse, on est les peuples, entendez-nous Macron ! On est la jeunesse, on est les peuples, entendez-nous Macron ! Parlez-nous dans vos discours, pas comme hier, vous n'êtes pas que vous nous entendez.
Je m'appelle Khalil, j'ai 18 ans. Là, je suis en terminale, économique et sociale. Alors moi, pour vous dire, je suis issu de l'immigration. Alors moi, mes deux parents sont marocains. Mon père est chef cuisinier et ma mère n'a pas d'emploi. Alors mes parents auront plus de mal avec les réformes à payer les frais de scolarité. Par exemple, la cantine, les fournitures scolaires. Comme ils disent, on survit mais on ne vit pas, on survit juste. Mon grand frère, il était obligé de faire
un bac professionnel, juste pour pouvoir travailler vite. Et moi, je suis deuxième dans ma famille, et je suis celui le plus chanceux, on va dire, car c'est moi qui aura la chance de pouvoir faire un bac général et essayer de quitter ce milieu. J'avais pensé à ingénieur commercial ou dans le commerce, mais aussi j'ai une envie pour la politique. Mais nous, les gens habitants de la banlieue, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît loin. Enfin, ils ne nous donnent pas vraiment notre parole. Et aujourd'hui, on a envie que le gouvernement nous écoute. Ils connaissent de nous que des chiffres, toujours négatifs. Enfin, combien de voitures ont été retournées, combien de voitures... Mais ils ne viennent pas vraiment assister à ce que nous, on dit. On est vus comme des jeunes qui sont là que pour la violence. Pourquoi nous allons les écouter ? Ben c'est ça, je comprends leur mentalité, c'est leur culture qui est comme ça. Ils voient les choses comme ça, telles quelles. Et quand on est né dans un milieu et un contexte social tel qu'il est aujourd'hui, et que nous le vivons à Aubervilliers, ça nous pousse, mais vraiment, à travailler deux fois plus que les gens qui ont tout trouvé dans leur vie. Certains d'entre nous réussissent. Et du coup, nous, ça nous pousse à viser encore plus loin que ce que les gens ils s'attendent. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, ça nous met encore plus de limites. Nous, aujourd'hui, avec les réformes, on a peur de ne pas réussir, de ne pas réaliser nos rêves.
Je m'appelle Traoré Toumani. J'ai 16 ans et je suis actuellement en première scientifique au lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine. Alors, tout a commencé le lundi soir, aux alentours de 1h du matin, je dirais. J'étais avec un groupe de 4 amis. On était en train de se diriger vers une épicerie pour acheter à manger et à boire tranquillement. On était juste 4. Et là, on a aperçu une voiture de la police nationale. On savait très bien qu'elle allait venir nous contrôler, mais comme on n'avait rien à se reprocher, ben, on a continué à marcher normalement. Ils sont approchés de nous, ils nous ont demandé de nous arrêter, ils ont fait un contrôle d'identité, ils nous ont fouillé dos à eux contre le mur. C'était assez tendu parce qu'il y a un policier qui, quand il a fouillé mon sac, m'a dit exactement « c'est quoi ça ?». Du coup, moi, pour lui répondre, je me suis retourné pour regarder de quoi il parlait et il m'a asséné un coup de pied dans les parties intimes en me disant « Pourquoi tu te retournes ? Qui t'a donné l'ordre de te retourner ?» Je comprenais pas du tout pourquoi il faisait ça, surtout que tout s'était bien passé, on avait nos cartes d'identité, on était tranquille. Après, la fin du contrôle, il s'est passé dans le calme. Du coup, on est reparti tranquillement. Et quelques mètres plus tard, on a à peine eu le temps de marcher quelques mètres, qu'ils sont revenus et nous ont demandé de redescendre vers le feu rouge plus bas dans la rue. Et à ce moment-là, il y avait une voiture de la police nationale et deux voitures de la BAC de Vitry. Il y a un camion de la police nationale qui est arrivé et ils nous ont fait monter nous quatre dans le camion directement, sans explication. Et on était menottés quand on est rentré dans le camion. Du coup, ils nous ont ramenés au commissariat d'Ivry. Et ils nous ont dit, oui, vous allez être placé en garde à vue pour dégradation volontaire aggravée de biens publics. À ce moment-là, j'avais juste peur de la réaction de mes parents, parce que je savais qu'ils allaient les appeler à 2h du matin, et que du coup, ça allait pas être un bon réveil pour mes parents. Je savais pas comment ils allaient réagir, surtout qu'ils nous accusaient de faire quelque chose qu'on n'avait pas fait. J'étais un peu dépité. À 4h du matin, ils nous ont rentrés dans les cellules. On avait un matelas pour 4. Il y en a un qui a dormi sur le matelas, un qui a dormi par terre, et moi et un autre camarade qui avons dormi sur des bancs en pierre minuscules. Le banc, il était tout petit, j'étais obligé de plier mes jambes, il faisait pas la largeur de mes épaules, c'était vraiment minuscule. Et le matin, quand on s'est réveillé, on a eu une brique de jus et un gâteau. Après, on est parti en audience avec l'OPJ. Et c'est là qu'ils nous ont présenté une bombe de peinture de chantier. Et ils nous ont dit, est-ce que vous reconnaissez cet objet ? Moi, j'ai dit, je vois que c'est une bombe de peinture de chantier, mais après, sinon, pas plus. Et c'est là qu'ils nous ont expliqué qu'on était accusé d'avoir graffé un tag avec écrit « Macron démission », « RR en colère », comme « Romain Rolland en colère », mon lycée. Effectivement, on avait prévu de préparer un blocus pour contester contre Parcoursup, les réformes du bac, mais à ce moment-là, le tag, on l'a pas du tout participé à cet acte. D'après l'OPJ, il y a un membre de la police municipale qui nous aurait vu taguer. Et d'après la magistrat, lui-même n'est pas capable de savoir qui a tagué. Le groupe de personnes qui a tagué était de combien. Et il ne pourrait pas les reconnaître même si il nous montrait. Après, le temps passe et aux alentours de 19h, on nous annonce qu'on va être prolongé de 24 heures de garde à vue. Et après 36 heures de garde à vue, aux alentours de 13h30, on a été libérés devant le commissariat où nous attendaient des camarades de classe, nos parents, et ça m'a fait chaud au cœur. À cette heure-ci, je crois qu'il y a toujours une enquête pour savoir si c'est nous qui avons fait le tag, mais pour l'instant, ils n'ont aucun élément contre nous, clairement. Et moi et tous mes camarades, on va continuer à nier parce que on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on n'a pas fait surtout. Alors moi, depuis cet événement, ça m'a encore plus donné la rage. Et pour vous dire, dès le lendemain, à 5h du matin, j'étais devant mon lycée pour aider à bloquer le lycée.
J'ai 16 ans et demi. Je suis en terminale. J'ai étudié au lycée Saint-Exupéry, celui à Mantes-la-Jolie. On est à Mantes-la-Jolie, quartier du Val-Forêt, on est sur la dalle. C'est en fait une place qu'on appelle, c'est comme ça la dalle en fait. Et là aujourd'hui on se mobilise tous pour une marche contre cette injustice qui a été subie. J'ai été témoin de ce qui s'est passé. En fait je voulais rentrer chez moi et du coup je marche sur la route pour rentrer chez moi. Et en fait, il y a des policiers qui faisaient barrage sur cette route qui m'ont dit « Non, dégage ou je te tire dessus. » C'est bien ce qu'ils m'ont dit. Bon, j'essaie de faire demi-tour pour passer de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, je vois une bombe lacrymogène tomber devant mes pieds. Du coup, pris de panique, on a tous couru. La plupart se sont réfugiés donc au sous-sol des Restos du Cœur et sur le jardin. Et moi, tellement j'ai eu peur que je me suis cachée en fait derrière une voiture. Sauf qu'ensuite, les policiers arrivent, armés, etc. Et ils nous demandent, à moi et aux certains jeunes qui étaient avec moi, de sortir de là. Et on n'était que des filles, on était 7. Donc on sort et tout, ils nous disent de nous coller contre le grillage, les mains levées. On est resté comme ça 45 minutes. Ensuite, on nous dit, vous allez être en queue-leu-leu et vous allez marcher. Et en fait, nous, on pensait qu'on allait rentrer dans les fourgons. Parce qu'en fait, le fourgon était en face de nous. Et non, en fait, ils nous rentrent à l'entrée où il y a les Restos du Cœur et à la fois le jardin, en fait. De cette entrée, on peut voir les deux espaces. Et on nous demande de regarder ce qui se passe. Donc du coup, on voyait nos camarades sur les genoux, par terre, mains sur la tête, sur les cailloux, en train de souffrir. J'entendais les gens pleurer. Et ça me faisait mal au cœur de voir comme ça. Ça m'a fait penser, je ne vais pas vous mentir, au livre d'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a fait penser à ça directement. Et à partir de là, j'ai eu peur. Quand je voulais me retourner pour éviter de regarder la scène, on me disait « Non, regarde, regarde !» Et après, j'ai pas voulu continuer à regarder, je regardais par terre. Mais derrière moi, les policiers en rigolaient. Et à la fin, un officier vient, il nous dit « C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. » Pendant 3 jours, j'avais ces images dans la tête, ça tournait dans ma tête. Je disais, est-ce que c'était réel? Quand j'ai vu la vidéo tourner, je me suis dit, on n'est même pas des humains, limite là on est des animaux. J'ai envie de me mobiliser contre Parcoursup, contre la réforme du bac, etc. Mais avec ce qui s'est passé là, je me dis que ça nous a tous cassés. Ça nous a tous cassés mentalement. Maintenant, on a tous peur de se mobiliser. Même personnellement, quand je vois des forces de l'ordre, avant, je trouvais ça sécurisant, en fait. Ils sont là pour notre sécurité. Là, ça me fait plus peur qu'autre chose.
Lycéens humiliés par en mobiliser. Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice, pas de paix.
Lycéens humiliés.
Lycéens humiliés.
Je suis maman d'un élève de première à Saint-Exupéry. Donc il a 17 ans et il a été interpellé jeudi à 11h30. Donc dans ce petit jardin qu'on voit sur les vidéos. Alors il a tenu à manifester. Lundi, mardi, il y avait beaucoup de violence. En fait c'était la guerre quoi, comme il disait. Il s'est pris un flashball sur les côtes. Heureusement il avait une doudoune assez épaisse. Il y a eu un hématome et les flics ont tiré des fumigènes et de la lacrymo partout. Même quand des vieillards passaient dans la rue ou des enfants, c'était les jeunes qui les mettaient à l'abri et qui les orientaient vers d'autres rues pour qu'ils puissent respirer un petit peu et s'échapper quoi. Donc à chaque fois, mon fils se disait révolté parce qu'il ne comprenait pas. La manifestation, c'est un droit. Il le sait et il dit qu'est-ce qu'on fait de mal. Et en même temps, il voulait manifester. Alors moi, j'étais partagée entre l'inquiétude et aussi une conscience de laisser s'exprimer ces jeunes. On est quand même dans un contexte social en France, un contexte de révolte partout. Donc je me voyais mal, moi en tant que citoyenne française, manifester et revendiquer des droits en fait. Et lui dire à lui de taire sa parole parce qu'il est mineur. Donc je l'ai autorisé à y aller. Je l'avais briefé sur les arrestations. Je lui ai dit, tu sais, dans ces manifestations, bah, déjà, ils ne sont pas autorisés. Et en plus, même si c'est légitime d'exprimer son mécontentement, il se peut qu'il ramasse tout le monde sans distinction. Donc je lui ai dit, surtout, ne résiste pas. Parce qu'on a tous en tête la mort de Adama Traoré. Donc c'est cette peur, en fait, c'est de ne pas récupérer son enfant en un seul morceau. Donc de ne plus le voir, en fait. Jeudi matin, il part en cours et moi tous les jours je l'appelais parce que bon, j'étais inquiète. Donc je pose la question à 11h30 par SMS. Est-ce que tu es en cours? Est-ce que le lycée est ouvert? Parce que bon, c'était très aléatoire les ouvertures du lycée. Et là, il me répond non, il n'y a pas cours. Il était 11h36. Donc moi je me suis dit bon, mais il va sûrement rentrer. Et à 13h, je reçois l'appel du commissariat en me disant qu'il est en garde à vue. Donc il m'a expliqué comment ça s'est passé. Il est parti en cours, il n'y a pas cours. Et il est resté devant avec les élèves. Sur le parking de l'Agora, les policiers sont sortis de tous les côtés. Ils ont jeté des fumigènes sur les petites rues où ils pouvaient s'échapper, donc personne ne s'est échappé. Ils les ont pris en souricière, quoi. C'était un piège, un guet-apens. Le responsable du local des Restos du Cœur leur a ouvert le portail aux jeunes. Il a refermé pour les flics. Et les flics ont poussé la porte pour pouvoir les piéger. Alors, mon fils est rentré dans les derniers. Du coup, ils les ont fouillés d'abord. Mon fils a été mis contre le mur, à genoux contre le mur, la tête sur le mur, et menotté. Et ils ont eu très mal, et certains disaient que c'était trop serré, que le sang ne circulait plus. Bah, du coup, les flics poussaient la tête contre le mur, et ils disaient « Tais-toi, ferme-la, t'as rien à dire. » Donc du coup, les insultes, l'arabe, le noir, le chevelu, le gros, voilà. Et de là, mon fils a été embarqué dans une voiture, et est parti au commissariat. Et les autres sont restés plusieurs heures dans cette position. En fait, ils les prenaient à la queue leu-leu, parce qu'ils étaient quand même beaucoup, et les fourgons des policiers faisaient des allers-retours entre les commissariats et le parking de l'Agora. Donc, il est arrivé au commissariat à 11h45. Ensuite, il a été enfermé dans une cellule avec 15 gosses, dans une cellule prévue pour 5. Ils ont passé la nuit, mais ils n'ont pas dormi. Ils avaient à manger une fois sur deux, ils pouvaient aller aux toilettes qu'une fois sur deux, et pareil pour l'eau, quand ils demandaient de l'eau, ils n'avaient pas tout le temps de l'eau. Au réveil, vendredi matin, une policière est passée devant la cellule et a dit, je cite, « On dirait le zoo de Thoiry ». Voilà, les animaux. Pendant aussi le prélèvement de salive, le flic a dit à mon fils, « Ça, c'est pour voir si tu as violé personne ». Ouais. Mon fils est un gosse très pudique. Il a 17 ans, il n'a jamais eu de dossier, de casier, mais rien quoi. J'ai pas eu le droit d'aller le voir, pas eu le droit de lui parler. Quand le commissariat m'a prévenu la veille, ils m'ont dit qu'il risquait une comparution immédiate le lendemain. pour regroupement en vue de commettre des violences et des dégradations. C'était ça le motif. Dès le lendemain matin, on s'est rassemblés au parking de l'Agora avec des mamans, des journalistes et des professeurs. Et j'avais pas de nouvelles. Mais le commissariat a bien mis en évidence une affiche « Ne venez pas pour vos enfants, on ne pourra pas vous laisser les voir de toute façon, donc c'est pas la peine de venir. » Là, j'ai eu peur. Alors, on m'a appelée le vendredi à 13h. On m'a dit de venir le chercher, que dans les vidéos, il n'y avait rien contre lui. Et il a pris un rappel à la loi. Donc, on est convoqué au tribunal de Versailles pour le rappel à la loi en janvier. Et tous les gosses ont eu ça, d'ailleurs. Ouais. Et là, j'ai pu le récupérer à la sortie. Donc, quand j'ai vu... Il était fatigué, il n'avait pas dormi. Et il m'a dit « Maman, je déteste la police. » Ouais. Et il m'a dit aussi « Je ne veux plus sortir, c'est terminé. » Il est encore chamboulé, au fait. Le fait d'être agenouillé et d'être resté dans le froid, dans la boue, tête contre le mur, comme s'ils avaient commis un crime horrible, au fait. Les insultes, les moqueries des policiers. On a vraiment une volonté d'humilier, de les mettre à genoux. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. J'ai vu hier des gamins qui avaient la rage. Ils brûlaient des poubelles parce qu'ils étaient outrés par cette scène. Et en plus, ils veulent en découdre avec la police. Tant bien que mal, j'essaie de canaliser leur colère. Mais il y a une gamine qui m'a scotché en me disant « Mais madame, si on ne fait pas ça, qui va nous voir ?» On fait ça pour se rendre visible. Notre colère, elle est là, elle est légitime. Donc je retenais les poubelles et en même temps, on me dit ça et je vois cette colère. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'était la manif des lycéens en colère, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Clément, Khalil, Maud, Toumani et ses parents, à Rachida, à Yessa, Belkodja, à Harry Halimi, à Léo Klockner et à Julien Marseille. Sachez que selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, il restait encore lundi 26 lycées perturbés au niveau national, dont 6 bloqués, qui seront libérés, parions-le, demain soir avec les vacances que je vous souhaite bonnes à vous aussi. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.